voisin avec le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour, bienvenue les voisins, les voisines, on est vendredi, youpi. Et vous en avez marre, des conflits avec vos enfants, marre de crier dans le vide, ras-le-bol de n'être pas obéi. Eh bien voici venu le temps de l'éducation positive, une autre manière d'envisager le rapport avec ses enfants. Les parents se disent plus attentifs au bien-être de leur progéniture qu'à la réussite scolaire. Et oui, dans le contexte économique difficile que nous vivons, les valeurs sont en train d'évoluer. Et l'éducation positive prend son essor et devient même une nouvelle tendance adoptée en famille pour qui veut justement échapper aux conflits avec l'enfant. Alors comment s'y prendre? Est-ce que l'autorité est remise en question? Comment redonner le goût d'apprendre aux enfants et veiller à son bon épanouissement? Alors je vous le dis tout net, c'est un sujet qui passionne car vraiment de nombreux livres sortent et sont vraiment sur les linéaires de vos librairies. On va commencer avec un livre de deux co-auteurs femmes qui sont là à ma droite et à ma gauche. Je commence avec Audrey Acoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes thérapeute familiale et vous Isabelle Payot.
Bonjour.
Psychologue, clinicienne du travail et des apprentissages et thérapeute familiale également. Vous êtes copine, on va dire comme ça, et vous coécrivez donc des livres ensemble. Et le dernier en date, donc Apprendre autrement avec la pédagogie positive. Mais avant, il y a eu Jeudi stop à la pression, Keep calm et réussite des examens. C'est tout ça aux éditions Erol. Donc vous êtes calée sur le sujet. Merci d'être là avec nous.
Merci à vous. À vous.
Également Christophe Carré, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de la collection Communication consciente aux éditions Erol. Ouais. Et vous êtes auteur de Bienveillance avec soi-même et Obtenir sans punir, les secrets de la manipulation positive avec les enfants, toujours aux éditions Erol, bien évidemment. Et ça, c'est la 5e édition. Alors, c'est vraiment un phénomène d'édition, j'ai envie de dire, ces dernières années, tous ces livres, qui, comme s'il en pleuvait.
Oui, bah écoutez, je pense que c'est bien, c'est plutôt intéressant. Après, sur la question d'éviter les conflits avec les enfants, je pense qu'il y a certains conflits qui peuvent être intéressants. Et je pense que bon, l'enfant se construit à travers le conflit. Évidemment, si
donc on ne pourra pas y échapper totalement, mais l'idée, voilà, c'est que ça interroge quand même les parents. En tout cas, on sent qu'ils s'interrogent puisque tous ces livres sont là.
Ce qui est vraiment positif justement dans les dernières années, c'est que tout ça, tout le jargon qui était réservé psy, qui était chasse gardée des psys, c'est de plus en plus démocratisé et vulgarisé. Et on voit apparaître là dans les dernières années plein de livres, mais aussi des sites internet, des blogs très grand public qui traitent de ces sujets-là. Et donc, c'est aussi le signe que les parents sont quand même très démunis et ont envie de pistes pour améliorer la relation avec leur enfant.
Ils ont besoin de clés pour changer. On va leur en donner tout au long de l'émission. Également avec nous, Agnès Duteil au téléphone. Bonjour Agnès.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour. En direct de Strasbourg, vous êtes ancienne infirmière scolaire et en cancérologie. Et maintenant, vous êtes formatrice et conférencière donc, pour accompagner justement les enfants, les parents dans ces démarches. Et vous êtes l'auteur de La psychologie positive avec les enfants aux éditions Erol. Les voisins, les voisines, on attend vos messages, vos témoignages sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas en matière d'éducation, ce que vous avez testé. Et le positif dans tout ça au 33 1 84 22 71 71. Et sur Facebook. Alors on a quand même beaucoup de messages, c'est dire effectivement à quel point ça questionne les parents en tout cas. Ibrahim Sikasso du Mali nous dit que lui, au Mali, l'éducation des enfants est devenue un gros problème. La famille ne joue plus son rôle d'éducateur et se laisse totalement aller. D'ailleurs, les enfants maintenant apprennent tout, dit-il, à l'école ou dans la rue. Et le père ne communique plus avec ses enfants. Jackie aussi de Sakei dans le centre de Madagascar a sa petite idée sur l'éducation positive. Lui, il dit il ne faut pas réprimander les enfants à chaque erreur. Il faut les écouter réellement et les laisser s'exprimer afin d'établir une bonne communication. Je pense qu'il faut les voir comme des êtres égaux et privilégier le partage. Alors voilà la définition de Jackie. On va vous demander la vôtre tout au long de l'émission de cette éducation positive. Continuez d'envoyer vos messages sur Facebook ou le téléphone au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On vous attend.
33 1 84 22 71 71.
Soyez les bienvenus.
beaucoup de messages hein, de parents donc, qui se qualifient comme ça sur Facebook et qui s'interrogent sur les relations avec leurs enfants. On n'apprend pas à être parent d'ailleurs nulle part. Est-ce que c'est normal? Car c'est quand même un métier difficile, Isabelle Payot.
Non, on n'apprend pas à être parent parce qu'en fait, on est les parents... En exemplaire unique, c'est-à-dire par exemple, moi j'ai 3 enfants, j'ai pas 3 fois le même. Donc du coup, bah, avec mon aîné, je suis devenue une maman et j'ai appris, j'ai fait des erreurs, des bêtises, etc. Et au fur et à mesure, j'ai gagné en expérience.
Donc vous avez appris sur le tas.
Oui, tout c'est ça, on apprend sur le tas, avec du bon sens, avec son histoire aussi. Et souvent, on ne veut pas reproduire ce qu'on a vécu. Et quand on ne veut pas le reproduire, on peut avoir aussi des excès inverses, ce qui est tout aussi dommageable parfois. Mais au fur et à mesure, on va apprendre à se faire confiance. Donc c'est surtout ça la question d'être parent, c'est avoir confiance sur le fait que ce qu'on fait est bon pour son enfant.
Et bon pour soi aussi. Qu'est-ce qui rend le métier encore plus difficile peut-être aujourd'hui par rapport à hier, Christophe Carré?
Le métier de parent?
Oui.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a une très grande inquiétude. Enfin, c'est ce que je ressens quand je discute avec des parents. Très grande inquiétude, justement, parce qu'il y a profusion d'informations. On ne sait plus sur la petite échelle entre la carotte et le bâton, entre vraiment quelque chose de la fermeté et puis le laxisme, ou placer le curseur. Et je pense qu'il y a effectivement une troisième voie à explorer, qui est celle de l'intelligence stratégique, parce qu'on est dans une relation et que, effectivement, l'enfant essaie de se positionner, il essaie de tester l'autorité du parent et que le parent, parfois, devant tellement d'informations, peut aussi se sentir un peu stressé parce que qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, en fait, il perd sa propre confiance
en lui,
de parent et du coup, il essaie d'adapter des recettes alors qu'en fait, c'est d'abord une question de ressenti personnel, effectivement, comme disait tout à l'heure Isabelle. Qu'est-ce que j'ai eu comme histoire? Qu'est-ce que je traîne derrière moi? Et qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Parce que c'est l'enfant et le père de l'homme. Je ne sais plus qui a dit ça. L'enfant et le père de l'homme, je trouve que c'est beau.
Audrey Hakoun, est-ce qu'il n'y a pas plus de pression aujourd'hui, par exemple, sur les parents? Tellement on veut bien faire, tellement on ne veut pas rater l'éducation des enfants, justement. Parce que ça, ce n'est pas une dimension supplémentaire.
C'est ça. Il y a aujourd'hui une vraie injonction générale de performance en tout genre. En préambule de l'émission, vous disiez aujourd'hui, finalement, ils sont plus préoccupés par le bien-être de leurs enfants que la réussite scolaire. Nous, c'est pas du tout ce qu'on voit dans la réalité. C'est-à-dire que quand on nous amène des enfants en cabinet, c'est pas pour que l'enfant aille mieux et aille bien, c'est pour qu'il réussisse mieux à l'école, c'est qu'il a des problèmes à l'école. Il y a un vrai enjeu et une vraie pression sur la performance, la réussite scolaire qui est liée à la situation économique, aux inquiétudes, 3,5 millions de chômeurs, on a peur et on a envie que nos enfants réussissent. Mais la question qu'on dit toujours, c'est qu'est-ce qui vaut mieux, réussir sa vie, réussir dans la vie? Et pour l'instant, c'est vrai qu'on est encore dans des croyances que si on réussit dans la vie, qu'on a un bon métier et que l'apparence est belle, alors on va bien. C'est pas toujours comme ça que ça se passe.
Alors on va tout de suite prendre Rebecca qui nous appelle de Niamey. Bonjour Rebecca.
Bonjour Sandrine.
Alors vous avez envie de témoigner justement sur la manière d'éduquer les enfants en Afrique, chez vous par exemple, de quoi vous avez envie de parler?
Voilà, en fait, j'aimerais savoir comment être dans le juste milieu. Par exemple, en Afrique, les enfants sont éduqués de manière très rigoureuse. Il y a un certain respect vraiment des parents. Mais parfois, ce respect peut faire que l'enfant reste... renfermé sur lui-même et prendre en compte l'enfant plus bien, tout ça, donc il n'y a pas de...
Alors la ligne, Rebecca, elle est vraiment mauvaise. Je suis vraiment désolée, on va couper net. En fait, le problème de Rebecca, il voulait dire aussi comment être un bon parent sans violence dans l'éducation, parce qu'en Afrique, il y a toujours le châtiment corporel. Ça diminue, certes, mais les parents quand même sont toujours... les enfants sont terrorisés par leurs parents, justement, et n'arrivent pas forcément à entamer le dialogue. Donc le bâton, le coup, Christophe Carré, vous avez des chiffres. C'est pas qu'en Afrique hein, d'élever ses enfants dans la violence.
Oui, il y a effectivement un rapport qui montre que en fait plus de la moitié des parents en France continuent de frapper les enfants de façon régulière. Hein. Une 30aine%, c'est de temps en temps, et puis il y a vraiment 12,5% de personnes qui ne tapent jamais leurs enfants. Donc je crois que quand on utilise la violence physique, parce qu'il y a d'autres formes de violence aussi, mais quand on utilise la violence physique, on ferme vraiment la porte à tout un tas de choses, et y compris à la relation. Enfin, voilà, on est dans une relation de domination, d'asservissement, et donc on va faire des enfants soumis, dociles, ce qui arrange bien, après, le monde de l'entreprise et la société. Ce n'est pas des gens qui vont être des citoyens à part entière.
Isabelle Payot, vous êtes thérapeute familiale aujourd'hui, mais vous avez grandi aussi avec des fessées, des baffes, et le résultat, bah, il est plutôt
Oui, enfin, on va dire même plus que ça.
Ouais.
Hein, donc, de la violence, de la vraie violence. Ça, à part développer un sentiment de peur chez l'enfant, donc chez moi, en l'occurrence, du coup, de perdre confiance et d'avoir une très faible estime de soi, moi, je n'ai pas de souvenir que les coups m'aient fait du bien et que je me sois dit, comme disent certains parents, ça va lui remettre les idées en place. Ça m'a mis aucune idée en place. Ça m'a pas toujours bien aidé à grandir, même si maintenant, je trouve que c'est mon histoire et elle est comme ça. Mais c'est vraiment, je pense que quand des parents utilisent la violence, c'est qu'ils n'ont pas trouvé leur place d'adulte. Parce qu'un enfant, si on regarde un enfant, c'est quand même un mini-moi, hein, il est tout petit. Donc il y a un adulte, il y a un enfant, le rapport de pouvoir, il est clairement posé. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur d'un petit être qui fait 50 cm ou 90 cm. Donc à partir du moment où on est clairement posé dans une place d'adulte et qu'on va incarner ce qu'on appelle une fonction d'autorité, c'est-à-dire je n'ai pas le pouvoir mais j'ai de l'expérience et je suis responsable du fait que tu vas aller bien, que je vais t'accompagner et t'élever, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de rentrer dans une dynamique de pouvoir.
Agnès Dutheil, cette différence entre faire autorité et être autoritaire.
Quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. Et en même temps, je suis aussi sensible aux parents que j'accompagne avec la difficulté qu'ils peuvent retrouver, c'est-à-dire comment est-ce qu'à la fois je dois être bienveillant, parce que c'est une espèce d'injonction, c'est ce qu'on a entendu aussi, hein, je dois être bienveillant, je dois écouter, je dois comprendre, et en même temps, je dois poser une autorité. Il y a une espèce d'antinomie qui est compliquée pour les parents. Et ce que je peux voir aussi quelquefois, c'est que justement, l'autorité est très difficile à poser et même elle est presque culpabilisante pour certains parents, comme si on n'avait pas le droit en tant que parent de pouvoir dire non. Et si mon enfant hurle, alors ça veut dire qu'il n'est pas heureux, ça veut dire que ça ne va pas bien, ça veut dire que je ne suis pas une bonne mère. Oui, en fait, élever un enfant sans conflit, c'est effectivement, c'est pas possible. Poser une autorité, ça génère quelquefois des conflits. Et l'éducation positive, pour moi, ne veut pas dire simplement une éducation où on écoute, où on comprend tout et où on est uniquement dans l'empathie.
Oui. Alors, l'éducation positive, Audrey Acoul, elle a une définition.
Oui, non, mais c'est pour continuer vraiment dans tout ce qu'on vient de dire. C'est pour ça qu'il apparaît vraiment important, voire nécessaire pour les parents, de travailler sur leur propre histoire et de prendre conscience de ce qu'eux ont reçu, du modèle qu'ils ont reçu, et de se donner, et c'est notre rôle aussi en tant qu'accompagnant, de leur donner l'autorisation de pouvoir remettre en question des croyances, de pouvoir remettre en question un modèle s'ils jugent qu'il n'a pas été forcément bon pour eux ou s'ils jugent tout simplement que c'est un modèle qu'ils n'ont pas envie de continuer à appliquer. Ça s'appelle casser la des souffrances. En tant que parent, l'éducation bienveillante, c'est qu'à un moment donné,
il faut commencer
par on
ça.
A la responsabilité déjà de faire vraiment le ménage dans son histoire, dans ses émotions. Parce que souvent, les parents qu'on voit, ce n'est pas des méchants parents. Les parents qui tapent leurs enfants ou qui leur crient dessus sont des parents qui sont complètement démunis, qui sont complètement impuissants ou qui n'ont pas conscience de l'impact négatif que ça peut avoir et surtout qu'ils n'ont pas confiance de l'inefficacité du procédé. Donc nous, c'est vraiment, on invite les parents à déjà prendre la responsabilité de leur histoire et de leur bien-être pour pouvoir après être des parents responsables. Et je pense que c'est ça, en fait.
Oui, il y a même certains parents à qui on dit, parce qu'ils sont démunis, comme ça, ils disent, on les aime. Et souvent, nous, on leur dit, aimez-les moins, mais en tout cas, placez une sécurité physique et affective. Et soyez responsable. Mettez l'amour de côté, parce qu'on peut aimer infiniment et maltraiter infiniment. Donc du coup, voilà, on va basculer sur comment je mets des conditions idéales pour que mon enfant se sente en sécurité pour grandir.
Mais alors, qu'est-ce qui se joue exactement dans la relation entre le parent... Oui, Audrey.
Non,
c'est pas Audrey. C'est Agnès, excusez. Mais qu'est-ce qui se joue vraiment entre les parents et les enfants, justement, quand les parents se plaignent parce que l'enfant n'arrive pas, pique une crise jusqu'à ce que le parent cède ou ne mange que des pâtes ou fait des mensonges à répétition? Qu'est-ce qui se joue là dans la relation quand les choses se répètent comme ça?
Alors, je ne sais pas si je vais répondre exactement à votre question. Vous me direz si ce n'est pas tout à fait ce que vous me disiez. Mais ce que je me dis, comment dire, c'est qu'effectivement, il y a un endroit en plus où les enfants, on va dire en termes de psy, je ne voudrais pas non plus les jargonner, mais vont narcissiser les parents. C'est-à-dire que, si moi, je n'ai pas confiance, même pas en tant que mère, hein, mais je n'ai pas confiance en moi, je ne me trouve pas quelqu'un d'estimable, ou en tant que père, c'est la même chose, alors j'ai besoin que mon enfant renvoie une image idéale de moi. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai un enfant qui réussit à l'école, et je suis d'accord avec Audrey et Isabelle qui disent qu'effectivement, il y a une grosse, grosse pression sur l'école, si mon enfant réussit à l'école, si effectivement il s'habille exactement comme il faut, s'il est poli quand j'ai envie qu'il soit poli, etc., alors ça veut dire que je suis un bon parent. Et il y a un endroit où effectivement, il y a cette pression-là, avec en plus le fait d'avoir besoin d'être aimé de ses enfants, et qu'on a l'impression qu'effectivement, pour être aimé de ses enfants, il ne faut pas rentrer en conflit avec eux. Voilà, et tout ça avec la couche du millefeuille, en fait, je veux dire, tout ça ouais. Du fait que, ah ben oui, mais alors comment est-ce que je fais pour poser mon autorité si je ne crie pas dessus?
Mais ce qui traverse absolument tous vos ouvrages, c'est que vous dites que les parents mettent trop l'accent sur le négatif. Ça, c'est ce qui est vraiment le cas. Absolument. Tout le monde hoche la tête, c'est qu'on a toujours tendance, on dit, ouais. T'as pas rangé ta chambre, t'as pas fini tes devoirs, t'as pas été obéissant. On est toujours dans le négatif.
On est toujours dans le négatif, souvent dans le négatif, et on veut toujours beaucoup. Et quand on n'a pas ça, on est un peu en position de parent, de victime sacrificielle. Enfin bon, le parent, il échoue, il est dans l'échec, donc il va consulter, il va voir des gens, et tant mieux. Enfin, c'est important de savoir se faire accompagner quand le moment est venu. Mais, pour en revenir à votre question, je pense que effectivement, la question du conflit, la question, toutes ces questions-là, de l'autorité, les parents ont du mal à aller vers ça parce que effectivement, ils ressentent certaines culpabilités, enfin par rapport à leur histoire, par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ils veulent tellement bien faire parce que le côté positif aussi, c'est de dire à tous les parents, vous êtes de très bons parents, vous faites du mieux que vous pouvez avec les moyens qui sont les vôtres. Et à partir de là, libre à vous effectivement d'aller chercher d'autres informations, etc., sans vous culpabiliser, sans, je crois que c'est important de leur dire ça. Même si vous faites mal, vous faites du mieux que vous pouvez, mais vous pouvez, si vous estimez que vous faites mal, vous pouvez essayer de faire changer les choses.
Mais Isabelle Payot, qu'est-ce que ça a comme conséquence quand on est trop dans le négatif avec ses enfants? Du coup, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce que l'enfant, quand il reçoit régulièrement ces messages négatifs, qu'est-ce qui se produit?
Alors,
sur lui?
La barre, elle est placée bizarrement. C'est-à-dire que quand un enfant fait bien quelque chose, on va dire, mais je ne vais pas lui dire parce que ça, c'est normal. Donc, il y a la norme, c'est d'exceller. Et puis après, dès que ça ne va pas être bien, on va lui mettre le nez, on va pointer les erreurs, etc. Donc le risque, il est le suivant, il est celui qu'on voit dans notre cabinet, c'est-à-dire qu'on paralyse des enfants. On a des enfants qui ne veulent plus rien tenter. Ils s'arrêtent un mois avant le bac, ils refusent d'écrire en CE2. Enfin, ils ont l'impression qu'on leur demande d'être parfaits, et comme ils ne peuvent pas accéder à ça, eh bien ils vont se paralyser ou totalement se révolter. C'est l'un ou l'autre.
Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie de corriger des défauts et de remédier aux faiblesses. C'est possible, hein. Donc nous, c'est l'éducation, c'est très culturel, c'est très franco-français. On trouve ça aussi dans certains pays, mais ce n'est pas dans tous les pays que ça se passe comme ça. Mais en tout cas, sur le continent africain, on retrouve cette culture-là qui est de corriger, d'être toujours dans de la remédiation et la correction et les défauts. Ça marche, mais ça demande beaucoup trop d'énergie. Alors que de pointer le positif et d'encourager l'encouragement, ça demande moins d'énergie et ça, c'est beaucoup plus efficace.
Plus de résultats. Ouais. Alors, comment apprendre autrement avec la pédagogie positive? Comment on s'y prend? On se retrouve dans 3 minutes avec Audrey Hakoun, donc, et Isabelle Payot. Vous avez écrit « Apprendre autrement avec la pédagogie positive » aux éditions Erol. Christophe Carré, « Obtenir sans punir », toujours aux éditions Erol. Et Agnès Dutheil, vous restez aussi avec nous. Vous avez écrit « La psychologie positive » avec les enfants chez le même éditeur. On se retrouve dans 3 minutes, les auditeurs. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
Le goût. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, les voisines. Merci de nous rejoindre. On met des lunettes roses aujourd'hui pour découvrir la pédagogie positive. Alors si vous en avez marre des séances de devoirs qui finissent en larmes, du mal d'être à l'école, si vous êtes hyper tendu aussi sur les résultats scolaires, votre vie va changer. Et oui, avec la pédagogie positive. Alors comment faire rimer travail scolaire avec plaisir, découverte et réussite? Ne bougez pas, nos invités vont vous donner des pistes. Nous sommes avec Audrey Acoun, thérapeute familiale, et Isabelle Payot, psychologue clinicienne du travail et des apprentissages. Vous avez coécrit « Apprendre autrement » avec la pédagogie positive. C'est un livre très joyeux, pétillant, optimiste. C'est aux éditions Erol. Également avec nous Christophe Carré, directeur de la collection « Communication consciente » aux éditions Erol. Et vous avez publié « Obtenir sans punir les secrets de la manipulation positive avec les enfants ». Toujours aux éditions Erol, on reviendra sur ce terme, hein, manipulation et positive. Est-ce que ça va vraiment ensemble? Et Agnès Dutheil, donc, vous êtes l'auteur de « La psychologie positive avec les enfants » aux éditions Erol. Et vous êtes en direct de Strasbourg. Et pour commencer, quelle est la différence que vous faites, Agnès, entre l'éducation bienveillante et l'éducation positive?
Oui, parce que l'éducation bienveillante, on pourrait dire que c'est justement tout ce mouvement d'éducation qui est venu avec l'idée qu'on avait, enfin, de l'empathie, qu'on avait à écouter les émotions des enfants, à comprendre les émotions, à se dire que toutes les émotions étaient acceptables, mais que ce sont les passages à l'acte qui ne sont pas acceptables. Là-dedans, effectivement, on est dans l'éducation bienveillante. Ce qui nous différencie quand on parle d'éducation positive, c'est qu'en fait, à cette éducation, là, on a rajouté tous les apports de la psychologie positive, de toutes les études qui ont été faites en psychologie positive, et notamment le fait que, eh bien oui, pour rééquilibrer une balance qui serait déséquilibrée, vous voyez, quand en fait on a des problèmes un peu qui nous entraînent vers le bas, on pourrait en fait traiter des problèmes, ok. Et ça voudrait dire faire ce qu'on fait souvent avec nos enfants, regarder ce qui va mal, etc., pour essayer en fait d'alléger et de rééquilibrer la balance et d'enlever des problèmes. Mais il y a une autre manière de faire, qui serait de dire, ok, les problèmes, ils existent, mais il y a aussi plein de choses qui sont belles dans la vie, il y a plein de choses que mes enfants savent faire, ils ont plein de talents, et on travaille aussi beaucoup avec les talents en psychologie positive, ils ont des forces, ils ont des choses qui les rendent uniques, et c'est ça qu'on a regardé en tant que parents, c'est ça qu'on a pointé, c'est ça qui va faire qu'en fait, ils vont avoir confiance en eux, dans leur unicité, dans leur force.
Donc pointer, voyez, plutôt ce qu'ils savent bien faire, là où ils sont à l'aise, et on peut imaginer qu'après ça contaminera un peu le reste, c'est ça.
Leur énergie, c'est là qu'ils vont la mettre. Il n'y a pas d'enfant qui se lève le matin en disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour embêter papa et maman? Non, au contraire, les enfants, ils sont comme nous, ils ont même plus que nous, en fait, ils ont envie d'être bons, ils ont envie de contribuer à la vie, ils sont pleins de vie, les enfants, ils ont envie de nous faire plaisir. Et quand on leur dit tout ce qui nous fait plaisir, quand on leur dit ce qui nous rend en vie, alors c'est là qu'ils vont mettre leur énergie. Mais si on leur dit pas, si on passe notre temps à dire tout ce qui va pas, ça ne leur dit pas ce qui nous rend vivants.
Alors le positif, vous parlez d'un effet Pygmalion dans vos livres, hein, il revient dans tous vos livres. Cet effet Pygmalion. Alors, est-ce que vous pourriez nous le résumer facilement, Audrey Acoun? C'est très révélateur de la manière dont fonctionne effectivement la confiance en soi.
Oui, c'est vrai. C'est que l'effet Pygmalion, alors pour expliquer l'effet Pygmalion, il faut revenir quand même sur son histoire, d'où ça vient. Donc, c'est un psychologue, Robert Rosenthal, qui a mis ça en place, qui a fait une expérience avec des groupes de rats au départ, où il a donné un groupe de rats à un groupe d'étudiants en disant, ça c'est des rats de base, vous en prenez pendant un mois, et il a donné un autre groupe de rats qui étaient les mêmes, hein, à un autre groupe d'étudiants en disant, ceux-là, c'est des champions du monde, des rats super intelligents, alors vous y faites drôlement attention. Il revient un mois après et il voit le constat que le groupe qui avait les rats de base, ce sont toujours des rats de base, ils ne sont pas perdus en route, et le groupe qui avait des rats soi-disant intelligents, les rats étaient devenus encore plus intelligents, Il a transposé ça sur des groupes d'enfants et on a eu les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'avec un enseignant à qui on avait dit, ces enfants-là, ce sont des enfants qui sont des génies, qui sont surdoués, donc vraiment, hein, vous en prenez soin, on s'est aperçu qu'au bout de quelques mois, les enfants, qui étaient des enfants complètement normaux comme les autres, étaient devenus intelligents. Donc l'effet Pygmalion, c'est que le résultat dépend du regard qu'on porte sur les choses et sur les les êtres. Si je porte un regard positif, je vais avoir du positif. Donc, si je porte un regard négatif, j'aurai du négatif.
Donc si on pense que son enfant est nul ou bête, il va se comporter comme tel.
Exactement.
C'est ça.
Il va se comporter comme tel, mais surtout mon regard va s'axer uniquement sur ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que même inconsciemment, je ne vais pas prêter attention à tout ce qui marche. Je vais le regarder sous cet axe-là. Il est nul, il est bête, il n'y arrive pas. Donc, et d'autre part, sur cette question des parents, ce que je souhaitais rajouter, c'est qu'il faut impérativement sortir, si on veut être dans une éducation positive, de l'idée que les enfants ont une intention mauvaise. Merci Freud, qui a dit que l'enfant est un petit pervers sur pattes, mais n'empêche que ça traîne encore et qu'on a l'impression que les enfants viennent sur Terre pour nous pourrir, qu'ils sont forcément des manipulateurs pervers pour arriver à leur fin, etc. Donc il y a toujours cette idée-là d'un jugement un peu négatif, même sur nos enfants qu'on aime. Hein.
Mais alors si on injecte du positif comme ça donc régulièrement, l'idée c'est de croire, d'avoir cette confiance inébranlable en fait dans son enfant et de le regarder comme tel. C'est-à-dire que même si à un moment il a un échec, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que ça implique dans notre manière de faire ?
Moi, je pense, enfin, on en discutait tout à l'heure hors antenne, mais je pense qu'effectivement, il faut utiliser un principe de naturalisation, dénaturalisation, c'est un terme un peu barbare de psychologie sociale, mais ça veut dire que quand l'enfant réussit bien quelque chose, c'est important de lui dire, bah, ça c'est tout toi, je savais, t'as la bosse des mains, t'as une super note en maths. Et par contre, quand il est en situation d'échec, lui dire, bah oui, voilà, t'as dicté, tu as eu zéro, mais c'est pas, voilà, c'est pas toi en fait, je sais que tu as des capacités, des compétences dans ce domaine, donc voilà, c'est ce que j'utilise, c'est une forme de manipulation, puisqu'on parlait de manipulation tout à l'heure, en tout cas d'influence. Mais c'est effectivement lui donner sa confiance. Ce qu'on parlait tout à l'heure du mot confiance dans la relation entre les parents et enfants, la confiance, c'est vraiment le mot-clé. Et c'est ce qui fonde tout l'avenir de cet enfant. C'est la confiance qu'on va porter en lui.
Mais si on lui dit toujours, tous les jours, là, t'es bon, mon gars, là, tu fais bien, est-ce que ça les pourrit pas, entre parenthèses, qu'est-ce que ça peut avoir comme mauvaise
conséquence? Moi, j'apporterai quelques nuances. Est-ce que disait Christophe, c'est-à-dire que, enfin, ouais, ce principe surtout de naturalisation, dénaturalisation, c'est que nous, on est beaucoup plus sur cette question d'arrêter de juger la personne et plutôt de juger les actes, quels qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire à son enfant qu'il est super génial, surtout si ça ne repose sur rien de vraiment concret. Il y a des parents comme ça qui disent « Oui, je l'encourage, mais ça repose sur rien. » Et l'enfant n'est pas bête.
Donc il faut pointer exactement...
Les comportements, ce qui se passe bien et ce qui est génial et ce qui est super dans les compétences, mais il faut pointer aussi les comportements négatifs sans en faire un jugement sur la personne. On peut être très gentil et mal se comporter par moment et expliquer qu'on peut toujours réparer des comportements négatifs. Un échec, une mauvaise note, ça n'est pas un échec. C'est une expérience dont on va tirer des conséquences. C'est ça l'éducation positive. C'est pas le monde des bisounours où on va dire que tout est beau, tout est génial, tout est ceci. C'est juste de tirer les conséquences d'expérience.
Oui, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, juste un petit aparté, c'est que en psychologie sociale, on sait que c'est prouvé quand même pour renforcer l'engagement de l'enfant dans ses actes. Quand on pratique de cette façon-là, on sait que son engagement est beaucoup plus puissant. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on a fait des expériences. Voilà.
On s'est rendu compte que l'estime de soi brisée, on retrouvait ça chez des enfants qui avaient été abusés, maltraités, battus, mais aussi chez des enfants qui avaient été trop valorisés sur rien du tout. Donc, ça a un effet. Si on lui dit « tu es merveilleux, tu es le plus beau, c'est formidable », alors que ça ne repose sur rien et qu'on n'est pas en train de regarder des comportements, mais qu'on porte des jugements qui semblent être positifs, l'effet va être exactement l'inverse que celui qu'on recherche.
Donc, c'est important de juger les actes et non les personnes, Agnès Dutheil.
Oui, ce que j'ai envie peut-être de rajouter, c'est qu'au-delà des actes, ce qui est important de souligner, c'est le processus. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, la note ne correspond pas à ce qu'on a envie qu'elle corresponde, peut-être. Et en même temps, peut-être que l'enfant y a mis tout son cœur. Peut-être qu'effectivement, il s'est concentré. Peut-être que la veille au soir, il y a passé 3 heures. Et l'éducation positive, c'est de regarder ça aussi.
Le processus. Chemin plus que
le chemin
plus que le résultat, oui.
Valoriser les efforts plutôt que les résultats.
Alors, j'ai découvert aussi dans vos livres qu'appliquer une discipline positive, c'est aussi impliquer l'enfant dans le processus de décision. C'est-à-dire de dire aussi, nous allons décider ensemble. Non, vous n'êtes pas d'accord. Ah, si, c'était plutôt que de dire il faut faire comme ça à telle heure, oui. C'est de le faire participer à eh ben, tes devoirs, tu veux les faire plutôt maintenant
voilà,
ou
dans
deux heures.
C'est du faux choix. C'est ça, Christophe, on se rejoint aussi là-dessus. C'est ce qu'on appelle de la manipulation, mais de la gentille manipulation, mm-hmm. parce ouais. que c'est bon pour eux. C'est-à-dire que c'est l'illusion du choix. Tu veux manger des petits pois ou tu veux manger des carottes? Nous, notre objectif, c'est qu'ils mangent des légumes. Donc, dans un... il a l'impression de choisir et c'est important de développer cette prise de décision aussi chez l'enfant, c'est ça qui lui donne conscience, mais dans un cadre. C'est-à-dire que nous, on voit des parents aussi arriver qui laissent choisir leurs enfants, qui convoquent leurs enfants pour tous les choix, mais même des choix très importants de où est-ce qu'on va aller vivre, un enfant
de 6 ans.
Est-ce que
tu veux une petite sœur?
Est-ce que tu veux une petite sœur? On a des parents qui demandent la permission à leurs enfants de faire un deuxième enfant. Donc, le choix et l'implication, c'est nécessaire dans l'éducation positive, mais à l'intérieur d'un cadre, et les garants du cadre, ça reste encore les parents.
Et attention au poids qu'on fait porter à l'enfant dans la décision.
Ouais, je crois que alors, Christophe Carré, il y a des choses qui ne sont pas négociables.
Oui, parce que là, on parle de manipulation. C'est le titre de votre livre, hein, « Obtenir ouais. sans punir, les secrets de la manipulation positive avec les enfants ». Alors, est-ce qu'une manipulation peut être positive? Parce que moi, je crois que c'était quand même deux termes
que les parents sont... Comme dans l'esprit de 95% des gens, on va dire, la manipulation, ça fait des décennies que c'est travaillé en psychologie sociale, que ça ne pose plus de problème à personne, hein, parce que toute relation, toute communication donne lieu à des manipulations. Un enfant qui pleure pour être pris au bras, il est en train de manipuler ses parents. La manipulation, c'est amener quelqu'un à dire, à faire ou à penser quelque chose qu'il n'aurait pas fait, dit ou pensé
tout seul.
Si je n'étais pas intervenu. Voilà, donc à partir de ce moment-là, les médiateurs, les éducateurs, les médecins, enfin, sont des manipulateurs. Donc, c'est pas... donc moi, je pense qu'il y a une manipulation qui peut être positive. Alors évidemment, on cible beaucoup en ce moment sur la manipulation perverse, sur la manipulation égocentrique, mais il y a une manipulation qui ne sert pas à mes propres intérêts de manipulateur, mais les intérêts de la personne que j'accompagne. Et donc, dans le domaine de l'éducation, évidemment que la manipulation, c'est une pratique, ce que disait tout à l'heure Audrey, c'est l'illusion du libre choix. Bah, y a des choses sur lesquelles on ne transige pas. L'hygiène, la santé, l'alimentation. Voilà.
Vous allez nous livrer les secrets de la manipulation
avec
positive.
Plaisir.
On va d'abord écouter Burning Bridge de Patrice. Love don't have to hurt. Forget who.
Thank you.
C'est vendredi, les voisins, les voisines, on parle éducation, mais éducation positive aujourd'hui. Alors, bon, ça voudrait dire qu'il y a une éducation négative, puisqu'on parle de positif. Oui, oui, il y a aussi du négatif. On disait à quel point la stratégie du bâton ou des punitions, en tout cas, ne marche pas, il faut le dire. Mais alors, pourquoi, si ça ne marche pas, on continue toujours d'essayer de l'appliquer, du genre, si tu rentres tard, tu seras puni, tu n'auras pas de télé pendant une semaine si tu fais ça. Et pourquoi on continue inlassablement? Alors, nous sommes avec Isabelle Payot et Audrey Hakoun, Christophe Carré également, et Agnès Dutheil qui se trouve à Strasbourg. Agnès, vous prenez la parole. Pourquoi on continue, on s'acharne à mettre des punitions alors que qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place?
Alors pourquoi on s'acharne? Moi j'ai ma propre réponse. Après chacun verra dans sa propre histoire pourquoi en fait il a subi ça ou pourquoi il le fait aussi. J'imagine que c'est parce qu'on a envie d'avoir des enfants soumis. C'est-à-dire que c'est tellement facile quand en fait on a un enfant qui dit oui à tout. Bon, alors la difficulté c'est de faire la différence entre la punition, la sanction et la réparation. C'est-à-dire que la punition c'est vraiment ce qui nous vient du maître à l'esclave. C'est-à-dire moi je suis supérieur à toi et moi je veux, vous savez, quand on était petit, moi je pouvais avoir ça de mon père qui me disait baisse les yeux, baisse les yeux. Voilà, ça serait ça. C'est-à-dire tu es soumis à moi et moi je suis supérieur à toi. La sanction, ce serait en fait plutôt d'abord on arrête de juger la personne, alors que dans la punition, c'est bien la personne que l'on juge. Hein. Dans la sanction, c'est l'acte que l'on juge. Et on peut dire à un enfant, je comprends les émotions qui t'ont amené là, mais ce que tu viens de faire est inacceptable et il y aura une sanction pour ça. Et en fait, on sanctionne à ce moment-là l'acte qui a été commis. Et c'est déjà différent. Dans l'éducation positive, nous maintenant, on parle de réparation. Ça nous vient en fait des études sur la justice restauratrice qui ont été faites par la psychologie positive, c'est-à-dire que dans notre idée, c'est vraiment d'amener l'enfant à la responsabilité de son acte. C'est-à-dire que je l'amène à prendre conscience de ce qu'il a fait, de qu'est-ce que ça a engendré autour de lui et comment est-ce qu'il va pouvoir réparer ça. Vous voyez, il y a cette histoire de l'éducation qui est passionnante en même temps.
Sur le mot sanction, d'ailleurs,
oui. Isabelle Payot.
Le mot sanction, on entend toujours sanction négative. Or, sanction, c'est simplement quelque chose qui termine ou qui finalise aussi. Donc, par exemple, un diplôme sanctionne un parcours à l'école et sanctionne positivement. Donc, mais on va toujours l'entendre comme si c'était une sanction punitive, justement.
D'ailleurs, vous dites à quel point, pour valoriser, on dit des compliments, mais on peut faire aussi des petites récompenses.
Oui, d'ailleurs, les petites récompenses marchent bien, hein, parce qu'on a tendance à dire la carotte et le bâton, bon, on fiche ça à la poubelle et puis on parle d'autre chose. Mais les petites récompenses marchent bien, il faut qu'elles soient proportionnées. Par contre, si vous offrez un scooter à votre fils parce qu'il a réussi une petite chose, ça ne fonctionne pas.
Est-ce que donner un ordre, par exemple, en expliquant pourquoi, est-ce que ça, c'est une technique de manipulation positive? Est-ce que ça marche?
Oui, c'est une technique de manipulation. Toujours dire parce que, si vous dites à un enfant qui fait du bruit alors que vous voulez vous reposer, arrête tout de suite cette musique, en hurlant dessus, en le menaçant, etc., il va pas comprendre. Si vous lui dites, est-ce que tu peux arrêter ta musique parce que j'ai besoin de faire la sieste 30 minutes, par exemple, je suis fatigué, voilà. Là, vous donnez quelque chose, une information qui va lui permettre d'aller dans votre sens.
Vous avez aussi la technique du libre à toi. Alors ça, je trouve ça assez, assez bizarre. Hein.
Enfin, oui.
Je te conseille de ne pas rentrer tard, mais libre à toi. Alors, ça fait un peu. Je ne préférerais pas. Enfin, on se mouille pas trop, mais ça marche vraiment.
Ça marche vraiment. Hein. C'est le principe de l'alternative illusoire dont parlait Audrey tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez, les enfants sont des êtres humains comme les autres. Ils aiment avoir un espace de liberté, même si c'est un espace de liberté à choix. C'est-à-dire que voilà. Donc là, vous parlez effectivement d'un exemple que je donne. C'est libre à toi de ne pas le faire. Je pose, moi, une demande. Alors, ça concerne plutôt les ados, ça, parce qu'avec les ados, c'est beaucoup, encore beaucoup plus complexe qu'avec les enfants. Le libre à toi, ça marche bien. Tu es libre, j'aimerais que tu fasses ça, mais et après, par contre, il y a toute une séquence de choses
donc
à respecter.
Donc, il se sent coupable s'il ne le fait pas. Non, oui.
Vous savez, en fait, je viens de donner des cours... je peux parler, ça?
Oui.
Je viens de donner des cours à l'école centrale la semaine dernière, et donc c'était des grands adolescents, hein, quand même, et qui, effectivement, parce qu'ils sont plein examen, parce qu'ils avaient un mémoire à écrire, en fait, ont essayé de me demander de partir avant l'heure, etc. C'est-à-dire, en fait, finalement, quelque part, de se déresponsabiliser, parce que c'est moi qui allais leur donner l'autorisation de... Et ce que je leur ai dit, c'est exactement ça, c'est-à-dire, si vous partez avant l'heure, vous prenez vos responsabilités. Il n'y en a aucun qui est parti avant l'heure.
La preuve, donc, que ça marche.
Alors, moi, je voulais juste ajouter quelque chose. C'est bien, bien évidemment que ça marche. Et c'est sain si le parent est au clair et qu'il ne va pas culpabiliser derrière. Parce que si on utilise le libre à toi pour s'en servir et le retourner contre une arme, contre l'enfant, après de dire, bah, tu vois, tu l'as fait, bah, je te l'avais bien dit, et bah, c'est complètement nul, bah, tu prends des mauvaises décisions, on lui donne quoi comme message? C'est que quand il choisit, il prend des mauvaises décisions, des décisions qui contraignent les parents. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec ce libre à toi. Si le parent n'est pas dans un fonctionnement, parce qu'on a chacun des stratégies et des fonctionnements, si le parent n'est pas un parent culpabilisateur. Mmh. Et sinon, dans la consigne aussi, moi ce que j'aime bien, c'est que quand on donne une consigne et pas un ordre, il faut que la consigne soit très précise et très claire. Dire à un enfant range ta chambre, en fonction en plus de l'âge, mais range ta chambre, pour l'enfant, on risque de ne pas avoir le résultat attendu. En revanche, de dire tu vas commencer par débarrasser les affaires que tu vas aller mettre à tel endroit, tes livres, tu vas les ranger et voilà.
On n'a pas la même notion du rangement.
Notion du rangement et nous on voit souvent des parents qui disent oui mais je comprends pas, ils rangent pas sa chambre. Et des enfants qui disent « Mais si je la range, ma chambre ?»
Elle est très bien rangée, ma chambre.
Donc, il faut se mettre d'accord sur ce que ça veut dire. Avoir une terminologie commune aussi
entre parents et enfants. L'explicite, c'est beaucoup mieux que l'implicite. Voilà. Être très, très clair dans ce qu'on demande et dans nos attentes, ça permet de lever tout tiraillement derrière et tout conflit potentiel.
Ça implique beaucoup de communication. Et vous donnez aussi un exemple d'un tableau de renforcement positif, puisqu'on nous demande toujours comment on fait pour faire du positif. Vous donnez cet exemple, Isabelle Payot.
Quand les parents arrivent, souvent, ils ont beaucoup, ils sont beaucoup dans la plainte, ils ont beaucoup de choses qu'ils voudraient changer. Donc d'abord, on leur dit qu'est-ce qui, chez vous, pour vous, doit être prioritaire. Est-ce que c'est sortir son agenda et ses affaires pour faire les devoirs ou commencer les devoirs sans râler? Bon, ils vont devoir prioriser. On ne peut pas s'attaquer à tout. Donc, on va prendre trois choses importantes et puis lundi, mardi, mercredi, voilà. Quand c'est réussi, on met un petit point vert. Le lundi, il a réussi à sortir ses affaires sans râler. Le mardi, donc on met un point vert et on dit « Ah, chouette !» Le mardi, pas de chance, ça ne se passe pas comme ça. Et on lui dit, on met un petit point rouge et on dit bah, « Tu vois, moi, je suis sûre que demain, tu y arriveras. » On ne part pas dans des leçons de morale. On s'évite de dépenser de la salive. Simplement, on constate. Et en fin de semaine, on regarde. S'il y a plus de points verts, eh bien, on récompense l'effort. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par une petite chose symbolique. Ça peut être que l'enfant a envie de passer du temps avec son papa à faire du skate ou je ne sais pas. Ce n'est pas forcément matériel. Et s'il y a plus de points rouges, eh bien là, pareil, toujours pas la morale. Tu vois, on ne s'en sort jamais avec toi. C'est toujours pareil. Là, on va dire, ben écoute, pour cette semaine, ça n'a pas bien fonctionné, mais je suis sûre que la semaine prochaine, ça va aller.
Tu vas te rattraper.
Oui.
Alors, pour faire de la pédagogie positive, aussi un dernier outil que vous utilisez dans votre livre, c'est le mind mapping, donc la carte de l'esprit. Alors, comment ça se fabrique? Qui veut en parler? Elle se pointe du doigt chacun. Alors, Isabelle Payot.
Alors, le mind mapping, c'est mind au sens de l'esprit qui réfléchit, mapping, la cartographie, donc c'est une carte de mon cerveau qui réfléchit. C'est un outil de pensée visuelle qui permet sur une feuille, en format paysage, d'avoir toutes les informations. C'est aussi ce qu'on appelle un schéma centré. Au centre, on va mettre l'objectif ou le sujet, par exemple. Pour les parents, on les invite à mettre au sujet, comme sujet central, mon enfant. Et puis, on va tirer des branches sur lesquelles on met des mots-clés. Et par exemple, quelles sont les qualités que j'apprécie chez lui? Et on va lister. Donc, c'est comme une arborescence, un arbre qui se diffuse entièrement. Qu'est-ce que j'aime faire avec lui? Peut-être l'objet d'une deuxième branche, etc. Donc, c'est un outil qui est très collaboratif. Parce que quand on le construit avec son enfant, eh bien, on va cheminer dans ce schéma-là et on va avoir une vue globale. Ça permet de prendre de la distance.
Et donc, ça peut s'appliquer à la vie familiale, ça peut s'appliquer aussi dans les études,
dans la manière d'intégrer
des sujets pour apprendre.
Voilà, donc il y a des études qui ont été faites sur le mind mapping qui montrent que ça favorise à la fois la concentration, mais que ça favorise aussi le processus de mémorisation et de compréhension. Donc, quand on prend une leçon et qu'on la travaille en se posant des questions et en faisant cette arborescence d'idées qui est très visuelle, mais qui marche aussi avec les enfants qui ne sont pas très, très visuels. C'est graphique, mais ça marche pour tout le monde. On a remarqué qu'il y avait une meilleure concentration, une meilleure mémorisation et plus de joie à faire les devoirs. Parce qu'il y a la dimension émotionnelle. C'est-à-dire que la politique du bâton et la politique de l'entonnoir peuvent marcher. Hein. Ça marche aussi hein, pour apprendre. Mais ça laisse des traces et ça n'est pas c'est moins efficace. Quand ça devient joyeux et qu'on convoque des émotions qui sont agréables, on apprend encore mieux et on a envie de découvrir encore plus de choses. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui et qu'on déplore, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont peur de mal faire, d'être en échec à l'école et qui perdent la curiosité qui est naturelle et qui perdent ce désir d'apprendre, mais d'apprendre tout le temps.
Oui, parce donc que là, naturellement, l'enfant, il est curieux.
Mais bien sûr, il est curieux. Donc il n'y a pas que le mind mapping, mais convoquer des outils comme ça et des approches qui sont douces, qui sont ludiques, stimule la curiosité et le désir d'apprendre.
Et stimule c'est ça, le lien quand le parent le fait avec l'enfant. Oui. Mmh.
Ouais. Et ça veut dire aussi que le père et la mère soient sur la même longueur d'onde. Il faut avancer ensemble.
Pas forcément. Ils peuvent avoir chacun leur façon de faire, leur pratique. Du moment qu'il respecte.
Qu'ils soient au clair.
Voilà. Merci beaucoup à Christophe Carré. Donc, Obtenir sans punir les secrets de la manipulation positive avec les enfants aux éditions Erol. Agnès Dutheil, La psychologie positive avec les enfants, toujours aux éditions Erol. Et vous, ensemble, Audrey Hakoun et Isabelle Payot, Apprendre autrement avec la pédagogie positive. Des ouvrages vraiment très bien faits, ludiques. On devrait pouvoir s'en sortir avec ça pour faire un peu mieux. On se retrouve. Merci à toute l'équipe, hein, Cécile Lavolo, Camille et Romain Dubrac. Lundi, on se retrouve dans les airs avec des pilotes d'avion qui racontent leur vie et les coulisses des vols. Passez un très très bon week-end. Portez-vous bien et à lundi.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO. Et si